Chers auditeurs, bonjour, c'est François au micro. Je suis aujourd'hui assisté à la technique du fidèle Arnaud. On va passer une nouvelle heure ensemble pour nous replonger dans les plus belles heures du rock'n'roll. 15 on the Rock, vous le savez, nous ramène sur les rivages du hard et du rock naissant, au crépuscule des années 60 jusqu'au début des années 80. 15 on the Rock pour, évidemment, le créneau 68-83, soit une quinzaine d'années au cours desquelles les plus grands groupes de rock ont émergé, puis souvent disparu sous les assauts de la cold wave, de l'électro ou encore d'un métal très lourd, moins inspiré. Sur la plage de 15, il y a eu les débuts du hard, le psyché, le boogie et la plénitude en totale maturité d'artistes dont on parle encore 50 ans après. Avec bien sûr des particularités géographiques, l'Angleterre, les États-Unis, l'Europe. Et même au sein d'un seul continent, des variantes. Le rock sudiste américain de Lynyrd Skynyrd n'a rien à voir avec un son californien plus léché. Ou encore, pour l'Europe, le lyrisme irlandais de Thin Lizzy avec le blues boogie de Fogat. Allez, on est parti pour une heure de classic rock avec les séquences que vous connaissez bien désormais, le slow rock, le live du mois, notre rock sudiste mensuel ou encore notre pépite oubliée. Un groupe britannique, originaire des Midlands, dans l'Ouest, couvre exactement notre période puisqu'il est actif, essentiellement de 69 à 76. Il s'agit de Mott the Hoople, dont le premier 33, Mott the Hoople, sort en 69 et l'ultime, Shouting and Painting, consacre l'apogée finale du groupe en 76. Son leader est le charismatique Ian Hunter, qui fait encore aujourd'hui en solo des piches sur scène à 84 ans. A travaillé aussi au sein de Mott the Hoople, Mick Ronson, l'emblématique guitariste de Bowie. Alors ce groupe est adulé par Bowie, justement, qui n'a de cesse de leur écrire des compositions. Après avoir refusé d'enregistrer Suffragette City de Bowie, Mott accepte All the Young Dudes, titre dans la mouvance glam de l'époque, qu'il sorte en single. Le morceau cartonne bien évidemment, Mott the Hoople sort alors un LP éponyme en 72 et devient une star outre-Atlantique. On trouve sur ce disque des reprises de Lou Reed ou encore des compositions de Mick Ralphs qui s'expatriera ensuite chez Bad Company. J'ai choisi pour vous un extrait du 33 tours suivant, Mott, sorti en juillet 73 chez CBS. C'est le sixième disque du groupe. Il est dans la veine de ses musiciens assez rhythm and blues, très glam, mais jamais très hard. L'album est classé dans le top 500 des plus grands 33 tours de tous les temps par le magazine Rolling Stones et fait partie des 1001 vinyles qu'il faut avoir écouté une fois dans sa vie. C'est donc le disque Mott par Mott the Hoople en 1973 avec le thème Crash Street Kids.
Together, one of us, one.
Le pendant américain exact de Mott de Hoople, ce sont les New Yorkais de Jaggez Band. Des musiciens qui, bizarrement, ont quitté immédiatement New York pour rejoindre Boston. Alors eux démarrent dès 67 à l'initiative du guitariste Jay Gales et ils commencent à enregistrer en 70. Le line-up de la bande comprend également un chanteur, un bassiste, un batteur, un pianiste et surtout un harmoniciste à la tignasse impressionnante, connu sous le pseudo de Magic Dick, qui enflamme le public au cours de concerts mémorables. Ces lives sont à la base de la renommée du Jaggez Band et ils ouvrent notamment très souvent pour les Stones. A noter d'ailleurs très tôt que leur troisième 33 tours est un très bon live, Full House, qui restitue en 72 leur incandescence sur scène. Le credo du groupe, comme Mott, c'est un rhythm and blues assez sale et nerveux, avec des réminiscences bluesy poisseuses. Dans ce registre, il règne en maître sur toutes les scènes du monde tout au long de la décennie des années 70. Extrait de leur premier album, sorti chez Atlantic en 70, qui porte le nom du groupe, le thème qu'on écoute est intitulé « Snow Cone ». Notre live du mois présent. Vous le savez, j'ai vraiment un faible pour le swing, la musicalité et les paroles d'un artiste de génie, Phil Lynott, le leader bassiste et chanteur de Thin Lizzy. Au cours d'une récente pérégrination parisienne, je suis tombé chez un disquaire sur un live non officiel de Thin Lizzy, un concert donné aux États-Unis le 21 avril 1976 à Chicago, au Riviera Theatre, et diffusé à l'époque en direct à la radio. J'ai suivi le groupe, moi, depuis 79, où je les avais découverts sur scène. Je pensais tout connaître d'eux, eh bien non. Figure dans cet enregistrement un morceau rare, à ma connaissance jamais capté en studio, sur l'un des 14 albums des Irlandais de Dublin. C'est Blues Boy. Il s'agit d'un blues co-signé Lee Nott et son lead guitar, l'écossais Robertson, dit Robo. C'est donc notre concert du mois, le rare Blues Boy donné live aux États-Unis, la voix de Lee Nott et les solos de Robertson, bref, du pur Thin Lizzy, l'un des meilleurs groupes de rock ayant jamais existé.
This is one that Brian and myself wrote, this Brian over here. It's a number not recorded yet, it's a number called Blues Boy. It go like this. Take me with ya, travel far. Blues boy, there's ain't nothing like it when you pluck on your string. Play something sweet. Hey, did you see me be? Yeah.
Depuis quelques années qu'on partage ensemble du hard sur 15, je me rends compte qu'il y a encore des personnalités du genre que je ne vous ai pas passées. C'est le cas pour le Californien de Monterey, Sammy Hagar, compositeur, parfois guitariste, mais surtout chanteur. C'est d'ailleurs le chant qu'il avait pris dans le groupe de ses origines, Montrose, une bande de San Francisco avec laquelle il fait les deux premiers albums du groupe. Le premier, s'intitulé Montrose, était paru en 73 et l'année suivante sortait Paper Money. Alors le groupe est bien connu des amateurs encore d'aujourd'hui, mais Hagar s'était vite lancé dans une carrière solo plus ou moins réussie qui a couru de 76 jusqu'à 2014. On retiendra surtout les meilleures publications, The Red Album en 77 et cette même année d'ailleurs Musical Chairs. Je leur préfère quant à moi le très bon 9 on a 10 scale, le premier album solo de 76 au sein duquel Hagar signe 5 des 9 titres enregistrés. À signaler aussi d'excellentes reprises de thèmes de Van Morrison, de Donovan ou encore de Welsh de chez Fleetwood Mac. C'est du pur hard rock, tendance Californie. Ça n'est donc pas un hasard si Sammy Hagar est recruté chez Van Halen en 85 pour remplacer David Lee Roth. Allez, Hagar en solo sur son premier album, sorti en mai 76, 9 on a 10 scale, avec un titre de 2 minutes 50, du rock très concentré, cette Urban Guerrilla. Vous êtes sur 15 on the Rock, sur Radio MDM, pour une heure de rock et de hard, créneau 68-83. Notre séquence rock du sud à présent, ce rock très marqué de folk et de country, qui puise aux sources du blues, comme le faisaient les Allman Brothers tout à la fin des 60s. Un hard rural, revendiqué par Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchett et autres 38 Special. L'une de leurs capitales, c'est Jacksonville, en Floride, où sont nés les Lynyrd Skynyrd, mais aussi, dès 1970, Blackfoot. À l'origine de Blackfoot, le premier batteur de Skynyrd, d'ailleurs, Richie Medlock. Né en 1950, Medlock est tout aussi à l'aise avec la batterie, qu'il quitte rapidement, qu'avec la guitare. Blackfoot, c'est un peuple d'Indiens du Sud américain, et Medlock en est un, il est l'un d'entre eux, avec deux autres musiciens de sa bande. Blackfoot enregistre 7 excellents 33 tours, de 75 à 83, mais reste actif jusqu'au milieu des années 2010. Alors Medlock est très attaché à ses racines familiales. L'un des grands succès de Blackfoot est Train Train, un thème écrit et porté sur scène au milieu du XXe siècle par son grand-père Shorty. Train Train était sur scène un incontournable de Blackfoot. Vous le trouverez facilement sur le net. Moi, j'ai plutôt opté pour un thème un peu moins connu, histoire de vous faire découvrir ce groupe de pur rock sudiste. On est en 1978, on rejoint le troisième album de Blackfoot et on entend à présent le titre « Rot Fever », extrait de « Strikes ». Notre séquence des hymnes du rock, à présent, on part à Détroit, aux États-Unis, où à la fin des années 60, les Stooges et les MC5, et encore Frost, incendiaient la scène rock. Alors une bande d'outsiders va y réussir un véritable coup, ce sont les Frigid Pink. Eux osent, dans leur premier album publié en 70, reprendre et muscler le célèbre House of the Rising Sun, une gentille ballade folk qui est anonyme dans le répertoire américain et que les Animals avaient enregistré en Angleterre en juin 64. Ce standard, dans la version Frigid Pink, se classe immédiatement à la 7e place des charts américains, provoque l'hystérie dans toutes les radios du monde. En Angleterre, le single monte à la 4e place et obtient même la première en Allemagne. Alors, je vous l'avais déjà raconté, je crois, le président Nixon est un fan absolu du groupe. Et il les fait même venir 3 fois à la Maison-Blanche pour des concerts privés. La bande, au total, va sortir 4 vinyles, le dernier en 1974. Il n'y aura malheureusement plus aucun hit, ni coup médiatique, et les échecs commerciaux auront raison de la cohésion du groupe. C'est notre hymne rock du mois, The House of the Rising Sun, morceau anonyme du folk américain, façon hard rock, avec les Frigid Pink. Nous sommes à Détroit, dans le Michigan, en 1970. Tous les mois, pour 15 on the Rock, je vous passe un slow rock. Je suis allé le chercher chez les Stones dans leur album de 1971, Sticky Finger. Un disque non politiquement correct que les wokistes américains ont définitivement condamné. Moi, ce chef-d'œuvre ne me dérange pas, au contraire, je l'adore. Il y a dessus Brown Sugar, Wild Horses ou encore Sister Morphine. Et puis, un slow blues signé Richard Jagger, enregistré au printemps 70 dans leur studio mobile. Il y a, outre les Stones, un pianiste, Billy Preston, qui figure sur ce morceau à l'orgue Hammond, et une section de cuivre avec Bobby Keys, leur fidèle saxophoniste, et Jim Price à la trompette. Les Stones se rendent dans I Got the Blues un hommage à leurs influences, notamment à Otis Redding et à ses ballades très lentes, et puis aussi à tous les noirs américains du répertoire gospel. C'est notre soft rock du mois, donc, extrait de Sticky Finger des Stones, un slow blues en ternaire, le très beau I Got the Blues. We'll be right back. Autre découverte récente chez un disquaire parisien, une compilation de tous les premiers enregistrements des Anglais de Status Quo, le groupe préféré, pour l'anecdote, du nouveau roi Charles III d'Angleterre. À l'origine des 62, deux potes de lycée se rencontrent, Rossi et Lancaster, pour former les Spectres. Alors le groupe va muter beaucoup, s'appeler également Quo, les Scorpions, ne vous y trompez pas, Traffic Jam, et le nom de Status Quo ne se fixe qu'à partir de 1967. La compilation que j'évoque est sortie en 2015 chez Metro Select et recense les premiers enregistrements de Status Quo entre 67 et 71. Et là, on découvre un groupe très marqué par les Beatles qui joue une pure pop londonienne vraiment soft. En 69-70, la bande vire psyché, mais l'expérience commerciale est désastreuse au point même que les musiciens se font virer de leur maison de production Pye Records. Alors pour survivre, Rossi décide d'opter pour un rock beaucoup plus basique, une rythmique simpliste, des accords primitifs et bien évidemment, ça marche du feu de Dieu. Status Quo a trouvé son registre, le boogie, un style qui fait fureur pour influencer ultérieurement Fogat ou encore les Français de Gana Fool. Alors Vertigo, la grande maison d'édition, sent le bon coup et les signe ensuite en 72. C'est le début d'une carrière longuissime, jusqu'à un dernier disque paru, si je ne me trompe pas, en 2019, leur 33e album studio. On reste quant à nous dans la bascule vers le boogie des débuts du Status Quo. Nous sommes en 71, on écoute les thèmes Railroad, puis Mean Girl, du pur boogie. Train. 15 on the Rock touche à sa fin. On termine cette émission avec l'évocation d'un groupe dont personne ne se souvient aujourd'hui. Ce sont les Anglais de la ville de Sutton, les Velvet Frogs. Des copains d'école qui étaient au milieu des années 60 de typiques petites frappes comme le prolétariat britannique en produisait alors. Ils ont un manager qui trouve toujours géniaux les coups de main des Velvet Frogs selon le principe que tant qu'on parle de vous, même en tant que délinquant, c'est toujours de la pub. Dans l'effervescence de mai 68, le groupe fait beaucoup de scènes et ouvre, entre autres, pour les Pretty Things. Ils entrent en studio à la fin de l'année. Ils sont très influencés, ça s'entend sur leurs morceaux, par Nietzsche et fascinés par le morbide Charles Manson et sa secte. Ils gravent le très anglais dans sa tessiture, Jéhovah, du pur rock britannique, puis ils splittent l'année suivante. Certains membres vont ressurgir sur la scène musicale avec le groupe The Method qui aura son heure de gloire en 78 avec un tube qui passait pas mal à la radio, Kings on the Corner. Notre pépite oubliée du mois donc, The Velvet Frogs et leur thème phare, Jéhovah. Fin 68, nous sommes dans l'underground anglais. Voilà, 15 est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, restez à notre écoute. Un bon vieux rock'n'roll, c'est toujours mieux que d'avoir à hésiter à écouter Pomme ou Juliette Armanet. Salut les amis. One, two, three, four.
the dark night meets the dawning, and anger fills the air. 10 million sleeping, dream it. Angel of death is there. Jehovah comes, the dead arise, the sun is halted in the skies. Calls for mercy, heard again, while death looks through their window pane. Creator of the planets, Jehovah looks in vain for some small land or country, one man who fears his name. He comes to kill, he comes to slay, he comes to reap, he comes to pay. Sorrow's too late, hate's too feeble.
Last night I did too.